Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce dimanche pour la dernière émission, et oui déjà des incorrectibles pour cette saison sur Sud Radio. J'aurai dans quelques instants le plaisir de recevoir à distance un invité qui je pense ne va pas déroger à la règle de cette émission où la langue de bois n'a pas sa place. Alors comme chaque dimanche, je vous le rappelle également, vous pouvez nous écouter en direct sur Sud Radio mais aussi nous voir en live sur Facebook via la page Sud Radio ou encore en replay depuis la playlist des incorrectibles sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Et je profite de cette tribune d'ailleurs pour vous remercier, vous qui êtes nombreux dans des zones qui ne captent pas Sud Radio, à nous faire l'honneur de nous écouter aussi grâce justement à Internet, notamment en Bretagne. C'est donc parti pour un nouvel épisode des Incorrectibles. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Sud Radio, les Incorrectibles. Éric Morillo.
Alors, mon invité du jour est fonctionnaire de police, ancien membre de la direction du renseignement de la préfecture de police, affecté à la lutte antiterroriste et l'islam radical. Il est aussi délégué du syndicat de police Vigie. Originaire d'un quartier sensible de Goussainville, dans le Val d'Oise, de parents algériens musulmans, c'est en Seine-Saint-Denis qu'il va servir la République pendant près de 10 ans au sein de ce qu'on appelait donc les RG. Qualifié d'encyclopédie du 9-3, ce flic de terrain est un spécialiste des filières salafistes dont il a très rapidement dénoncé les menaces. Il a protégé des hommes de haut rang, dont le président de l'époque, Nicolas Sarkozy. Mais ses origines lui ont toujours valu suspicion, jalousie et manque de reconnaissance. Lanceur d'alerte, il a partagé son expérience dans un livre témoignage paru l'an dernier, intitulé « La France doit savoir » aux éditions Plon. Il a pris position en faveur des Gilets jaunes et s'est exprimé dans de nombreux médias sur les dysfonctionnements au sein de la police. Ses propos lui ont d'ailleurs valu d'être traduit en conseil de discipline et condamné pour manquement au devoir de réserve. Il va nous en parler dans un instant. Il est à nos côtés aujourd'hui pour nous apporter son éclairage sur l'un des sujet chaud du moment, le racisme dans la police suite aux nombreuses manifestations qui ont eu lieu un peu partout en France et dans le monde. Noam Anouar, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va faire quelques réglages parce qu'on vous entend un petit peu mal pour le moment. Vous êtes en duplex du gîte des Trois Vignes à Moutier sur le Lay en Vendée, qui vous accueille à titre gracieux. Alors première question, Noam Anouar, je le disais en introduction, suite à votre passage en conseil de discipline en début d'année, vous avez donc été condamné à 6 mois de suspension ferme, sans salaire et 18 mois de sursis. Une pétition a été lancée pour vous soutenir, une cagnotte en ligne a été ouverte. Où en êtes-vous aujourd'hui? Cette sanction est-elle effective?
Alors, pas encore. Je suis actuellement en disponibilité et comment dire, je suis en attente d'un arrêté ministériel qui doit confirmer la sanction qui est proposée par le conseil de discipline. Donc, la décision finale revient au ministre de l'Intérieur ou à son secrétaire d'État. Donc, inutile de vous rappeler que c'est un dossier particulièrement sensible puisqu'il a une connotation politique forte, même si elle a été déniée au départ, c'est-à-dire qu'on vous dit jamais que vous êtes poursuivi parce que vous dénoncez les dysfonctionnements de l'institution, mais dans un système disciplinaire extrêmement sournois, l'administration se nourrit de rancœur, de jalousie, comme vous l'avez rappelé, et de tous les sentiments négatifs pour dresser les collègues les uns contre les autres. Donc j'ai eu droit effectivement à des accusations relativement fantaisistes.
Alors justement, oui, c'est ça, vous avez été condamné pour manquement au devoir de réserve. Qu'est-ce qu'on vous reproche précisément, Noam Anouar ?
Alors, en fait, j'ai été parmi les premiers initiateurs du mouvement des policiers en colère. Avant même la création de l'association, j'ai pris le pavé en 2016 pour m'indigner de ce qui était arrivé à mes collègues de Viry-Châtillon. Mais on était dans une période où on avait connu les attentats de Magnanville, le 13 novembre, l'attentat de Nice. On avait perdu des collègues à ce moment-là et de nombreux civils. Et il y avait un sentiment, à la fin du mandat de François Hollande, un sentiment d'inaction et d'inefficacité de nos actions. Et globalement, le jour où les délinquants de quartier se sont autorisés en fait d'aller harceler nos collègues et de les brûler vifs à l'intérieur de notre véhicule, il y a un moment où légitimement la profession a manifesté de la colère de façon très spontanée. Et le discours du ministre de l'Intérieur de l'époque était un discours de fermeté, de menaces, de sanctions disciplinaires. Et donc moi j'ai été parmi effectivement, j'ai participé. Ça a été ma première apparition télévisée aux côtés de Guillaume Lebeau et d'une autre fonctionnaire de police à l'époque, et j'ai été le seul pour qui les poursuites ont été effectives, puisque pour les deux autres participants à l'émission, les poursuites ont été abandonnées. Donc on a coloré le dossier de religiosité, de communautarisme, d'accusations fantaisistes de toutes sortes, et ça a été pour moi une prise de conscience de ce qu'était réellement en fait l'institution policière après une quinzaine d'années de service rendu.
Vous considérez, Noam Anouar, que les policiers sont muselés ?
Effectivement, effectivement, vous voyez bien que les moyens d'expression au sein de l'institution police sont... En fait, c'est même plus pervers que ça, parce qu'en fait, effectivement, la police est muselée. Alors, pour répondre à votre question, oui. Mais tout est fait pour nous laisser penser qu'il y a une liberté syndicale, qu'il y a une liberté d'expression.
Mais alors justement, qu'est-ce que dit la loi, justement, en la matière? Où s'arrête et où commence votre droit à la liberté d'expression, justement?
Alors, tout dépend. Si, effectivement, vous bénéficiez d'un mandat syndical, vous avez la possibilité de vous exprimer sur les difficultés de votre profession. Par contre, la neutralité politique est exigée. Pour les fonctionnaires, pour la masse des fonctionnaires, le devoir de réserve est effectif pendant les heures de service, mais y compris dans le cadre de la vie privée, parce que vous imaginez bien qu'un fonctionnaire qui travaille à la DGSI sur des dossiers confidentiels peut pas arriver le samedi soir à une table d'amis et dire « vous savez, j'ai travaillé sur un tel ». On a astreint au secret professionnel, voire au secret défense pour la plupart, et donc naturellement la parole est très contrôlée. Donc de ce point de vue-là, moi je suis entièrement d'accord, mais toutes ces réglementations en fait deviennent des outils finalement de totalitarisme, hein, parce que la moindre contestation de ce qui se passe réellement dans l'institution, et je dis bien réellement, donne lieu à des poursuites disciplinaires, et on a un discours à géométrie variable. Il suffit d'aller sur mon compte Twitter pour vous apercevoir qu'il y a une bande de, comment dire, on va essayer de rester courtois, on va appeler ça une bande de policiers, on va dire un petit peu en roue libre, qui me harcèle.
Vous avez subi des menaces?
Un petit peu, mais c'est surtout du harcèlement, en fait. Hein, ils se donnent des consignes de harcèlement pour intimider les médias qui me reçoivent, pour, vous voyez, c'est ce genre de choses. Et donc, pour aussi menacer nos adhérents, en disant « attention, vous allez avoir des problèmes, vigie à mauvaise presse, si vous adhérez chez eux, vous allez rencontrer des problèmes avec l'institution ». Vous voyez, c'est des procédés, en fait, très sournois qui visent, en fin de compte, à nous faire taire. C'est-à-dire que moi, j'ai une parole, si vous remontez, maintenant, ça fait 2 ans que je m'exprime dans les médias, je vous dis ça vraiment en toute modestie parce que je fais de l'analyse et je me suis pas beaucoup trompé sur le fil des événements de façon prévisionnelle. Bon, par exemple, sur l'affaire Michael Harpon, j'ai été le premier à dire les faits tels qu'ils avaient eu lieu, en fait, avec beaucoup de certitude. Sur le moment, j'avais été conspué par une partie de la profession, par certains journalistes, par des pseudo-experts. Et à la fin de l'enquête parlementaire qui a rendu son rapport il y a quelques jours, il s'avérait que toutes mes suppositions en fait étaient exactes. Et donc moi je dis pas que j'ai toujours raison, mais je dis que mes analyses sont basées justement sur une expérience, sur le fait que moi j'ai respiré le terrain en fait. Aujourd'hui, même si je suis plus sur le terrain, il m'est pas demandé de rapporter en temps réel ce qui se passe dans les affaires judiciaires à l'instant T. On me demande une analyse permanente des événements au regard de mon expérience. Et aujourd'hui, nos résultats chez Vigie, hein, je parle pour moi, mais pour Alexandre Langlois également, sont plutôt concluants. Même si on est minoritaire au sein de la profession, la population française nous fait confiance. On est très suivi sur les réseaux sociaux, on est très écouté. Et je pense qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est quelque chose qui inquiète. Et naturellement, vous savez, au ministère de l'Intérieur, on a des marionnettes, c'est-à-dire les associations policières en colère, les syndicats majoritaires. En fait, on va dire que globalement, sans caricaturer, quand le ministre est enrhumé, c'est Alliance qui éternue, quoi. Bon, on peut dire ça comme ça.
Noah Manoir, vous restez avec nous, nous sommes ensemble en direct jusqu'à 14h sur Sud Radio. On fait une courte pause, on se retrouve dans un instant, à tout de suite.
Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo.
De retour dans les incorrectibles, toujours en direct jusqu'à 14h avec notre invité. Il est fonctionnaire de police et essayiste. Il a publié il y a quelque temps « La France doit savoir » aux éditions Plomb. C'est Noam Anouar. Merci d'être toujours avec nous. Alors Noam Anouar, vous le disiez il y a un instant, quand le ministre de l'Intérieur éternue, c'est le syndicat Alliance qui tousse. Vous affirmez que Christophe Castaner se serait payé votre tête. Alors justement, à quelques heures d'un vraisemblable remaniement qui devrait sans doute voir s'installer un nouveau locataire place Beauvau, j'aimerais vous demander, est-ce qu'il y a une différence majeure dans la gestion du ministère, notamment entre Gérard Collomb et Christophe Castaner et leurs prédécesseurs, vous qui avez d'ailleurs officié sous plusieurs d'entre eux, on parle notamment d'Hortefeux, Guéant ou Valls?
Oui, alors j'ai connu au total, pour avoir commencé ma carrière en 2006, j'ai connu 12 ou 13 ministres de l'Intérieur différents. Pour vous dire à quel point on a un turnover au niveau de cette fonction, hein. En fait, la particularité de la machine administrative française, c'est qu'elle pourrait travailler en autonomie, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de ministre, d'ailleurs ça a été le cas quand M. Collomb est parti, Édouard Philippe a pris l'intérim pendant 2 semaines, si vous vous en souvenez, à l'époque. Ça n'a absolument rien changé. C'est-à-dire que, globalement, au sein du ministère de l'Intérieur, ce sont les directeurs d'administration, en fait, qui ont le pouvoir. Les ministres sont là pour donner des orientations, pour couper des rubans, poser des premières pierres. Mais globalement, au niveau de la gestion de la machine administrative, c'est une machine qui digère tout, qui se gère toute seule et qui travaille en totale autonomie, hein, en réalité. Donc, bon, après, sur la gestion de Christophe Castaner, je pense que le mot est fort parce que je dirais qu'il est de notoriété publique. Bon, si on a désigné Laurent Nunez en secrétaire d'État en appui à Christophe Castaner, c'était bien parce qu'il était haut fonctionnaire et préfet de police avant et que donc qu'il était capable finalement de gérer la machine administrative parce que M. Castaner n'avait pas particulièrement, en tout cas à ma connaissance, de compétences en matière de sécurité pour gérer ce poste. C'était un porte-parole plus qu'autre chose en fait.
Noah Manoir, vous avez vu une dégradation progressive, vous qui avez notamment pointé du doigt les suicides au sein de la police ?
Alors là, en fait, on s'était promis effectivement qu'il n'y aurait pas de langue de bois pendant l'émission. Si vous voulez, moi, je visite mes collègues sur le terrain. Voilà, chez Vigie, on n'est pas détaché à plein temps. On le fait de façon bénévole sur notre temps personnel. Et il y a 3 semaines environ, donc pendant, il y avait une ère de canicule. Et je suis passé de nuit aux abords de l'Élysée et du ministère de l'Intérieur. J'ai vu des fonctionnaires en fait de la DOPC qui étaient en garde statique dans les guérites du ministère et de l'Élysée. Et en fait, on leur avait laissé le chauffage. Donc c'était en canicule, et il y avait le chauffage qui était à fond dans la petite guérite, là vous savez, qui est de la taille d'une cabine téléphonique. Et donc ils étaient à l'extérieur. Et quand j'ai discuté avec eux, ils me disent oui, exceptionnellement en fait, après avoir frôlé l'évanouissement, on nous a autorisé finalement à rester en faction devant la guérite. Et je leur ai posé la question, je leur ai dit « Ouais, mais je comprends, c'est un truc de malade, là. Il y a eu des suicides chez vous. » Il me dit « Oui, on a un collègue qui s'est suicidé, qui s'est raté, qui s'est mis une balle dans la bouche il y a quelques jours. » Et je leur ai dit « Quel est votre sentiment ? Est-ce que toi, le gars était de Marseille, celui avec qui j'ai discuté, je lui ai dit « Quel est ton but dans la vie ?» Il me disait « Moi, j'aimerais bien repartir après 10 ou 15 ans d'exercice. » Il me dit « Tous mes liens familiaux, en fait, seront défaits après 10 ans de solitude à Paris. Je vais revenir à Marseille, même si c'est chez moi, je serai un étranger là-bas, en quelque sorte. » Et donc, on a commencé à avoir une discussion de fond sur la question. Et il me disait, tu sais, il me fait une confidence, les larmes aux yeux. Il me dit, quand on a des collègues qui se suicident, en fait, on a une équipe qui vient dans les 2 heures pour nettoyer la flaque de sang. Et le collègue est remplacé par un autre. On n'est finalement que des numéros pour l'administration. Et quelque part, c'est un système, comme je vous disais, qui est très sournois, très pervers. Parce qu'il me dit, si j'avais pas choisi policier, j'aurais fait 1 100 €, c'est-à-dire le montant du SMIC en travaillant au supermarché du coin chez moi. Mais dans la police, vous venez à Paris, les loyers sont un peu plus chers, mais on vous donne 1 800, donc vous avez 700 de plus. Donc, quand vous allez à la banque et que vous voulez vous endetter, c'est un petit peu plus facile, donc ça vous donne une bonne raison de rester. Puis à chaque fois, vous êtes toujours en fait sur la crête, c'est-à-dire que c'est un métier dans lequel on sait maintenir les gens, on sait les tenir, on sait leur faire peur pour que les choses ne se disent pas, pour que les gens soient disciplinés, soient de bons petits soldats. Mais au final, le quotidien d'un policier aujourd'hui, c'est pas de l'action, c'est pas l'application de la loi. Moi, quand je passe à Paris, je vois même les gendarmes mobiles. Je veux dire, ils sont en faction, ils sont regroupés par 3, 4, 5 dans des camions à attendre pendant des heures et des heures à ne rien faire, à être en vigilance. Mais je veux dire, c'est pas le métier le plus excitant que je connaisse aujourd'hui, quoi. Quand on voit dans les faits ce qui se passe réellement. Bon, à quelques exceptions près, c'est des métiers d'attente où vous subissez. Vous savez, moi, quand j'étais au centre de rétention, c'était des postes de garde où finalement il s'agissait de surveiller des retenus en situation de rétention administrative. Et bon, la hiérarchie, quand tout se passait bien, de temps en temps, ils faisaient des contrôles de chaussettes, c'est-à-dire qu'il fallait lever le pantalon. Comme il y a un alinéa dans un règlement quelque part qui vous dit que vous devez porter des chaussettes noires, c'était l'occasion de mettre une sanction à ceux dont les chaussettes étaient un peu grises. Vous voyez, donc c'est ça en fait la police nationale aujourd'hui. À quelques exceptions près, comme je le dis. Et il y a beaucoup de gens, pour en revenir à ce qu'on disait avant la coupure pub, qui nous attaquent pas parce qu'on est méchant, parce qu'on est moche ou je ne sais quoi. Ils nous attaquent parce qu'on remet en cause ce système, en fait, et parce que eux bénéficient de ce système. C'est-à-dire que si ce système tient depuis aussi longtemps, c'est parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui profitent de ce système, qui en bénéficient. Il suffit de voir dans certaines directions, dans certains bureaux, les gens sont promus. C'est-à-dire que vous allez dans les syndicats majoritaires, ils ont tous accédé à des grades supérieurs, de niveau supérieur, mais aucun n'a passé les examens pour ça, ou ils sont très peu à avoir passé les examens. Ils sont passés au choix, on va dire, par promotion, par arrêté préfectoral ou ministériel.
Alors, vous voulez bien, Noah Manoir, on va revenir à vous plus spécifiquement. Vous avez été mis sur écoute, suspecté de radicalisation et même privé de votre habilitation secret défense, alors même que vous avez passé des années à dénoncer la montée de l'islam radical et à enquêter sur l'ancrage des filières salafistes dans certaines banlieues, notamment en Seine-Saint-Denis. Vous pensez que vous êtes clairement victime de vos origines ?
Alors oui, en fait, vous savez, c'est un prétexte extrêmement facile, hein, après les attentats de Charlie, quand il a fallu se débarrasser du vilain petit canard d'origine maghrébine. Il n'y avait rien de plus facile que d'évoquer la pratique de l'islam, etc. Bon, après, moi, j'aime pas avoir à me justifier là-dessus, mais je suis pas,
Ça aurait
si,
été
je suis un
différent si vous
pratiquant.
n'étiez pas musulman et enfant de parents
Bien
maghrébins?
entendu. Bien entendu, mes collègues, y compris les plus médiocres, en fait, qui étaient en poste à l'époque, sont toujours en poste, si vous voulez, aujourd'hui. D'ailleurs, bon, après mon départ de la direction, donc en 2015, on a eu les attentats du 13 novembre, on a eu l'attentat de l'APP, Michaël Harpon, on a eu un nombre en fait incalculable d'attentats. On a eu aussi Saint-Étienne-du-Rouvray, dont la DRPP avait l'information. Et ça a été en fait une série d'échecs successifs. Et personne n'a été blâmé pour ça. C'est-à-dire qu'on est capable de dire à quelqu'un, vous mangez pas de porc, donc finalement, c'est répréhensible, voilà, retrait d'habilitation. Mais quelqu'un qui, par passivité ou par incompétence, a été responsable de centaines et de centaines de morts et de blessés, à part une promotion, en fait, n'en court pas grand-chose en matière de risque au plan pénal ou disciplinaire. Donc, bon, je ne parle pas des gilets jaunes éborgnés, des insultes, des comportements indignes, en fait, dont se sont rendus coupables un certain nombre de nos collègues, hein, pas tous, pas la majorité, mais beaucoup, beaucoup trop. Et donc, bah, tout ça, c'est pas réprimé. Vous voyez, par contre, oui, le porc, les poils de barbe, etc., dans une institution très orientée à l'extrême droite, effectivement, ça, on sait faire.
Alors justement, en janvier dernier, au micro de nos confrères de France Inter, vous teniez les propos suivants, je vous cite, l'institution policière ne fait rien pour lutter contre le racisme anti-musulman, au contraire, elle l'encourage, elle le couvre, il y a même une passivité complice, vous ajoutiez que certains personnels au ministère de l'Intérieur sont clairement affiliés à l'extrême droite et détestent les Maghrébins. Est-ce que vous diriez que les hauts gradés encouragent le racisme au sein de l'institution policière? Ce sont des propos quand même très forts, des accusations très fortes que vous portez.
Alors encourager, je dirais pas ça parce qu'ils arrivent pas le matin en disant oui, alors voilà, on va faire un peu de racisme aujourd'hui. Mais par contre, quand j'ai parlé de passivité complice, et ça c'est un terme effectivement une accusation même que j'assume parfaitement, parce que vous voyez l'affaire de Rouen récemment du TGI de Rouen, où bon, je vais pas réitérer les échanges honteux en fait de mes collègues policiers, mais moi en janvier, bah, peu après cette interview chez France Inter, chez vos confrères du Média. J'avais précisé qu'il se passerait rien. J'avais dit, on se donne rendez-vous dans 6 mois, vous verrez qu'ils seront toujours en poste et aucun d'entre eux sera suspendu. Et donc, Camille Polony a diligenté une enquête pour Mediapart et elle s'est aperçue effectivement qu'aucun d'eux n'avait bougé. Et ce sont les manifestations, la pression médiatique et le fait de réitérer ce qui s'était passé qui a fait qu'aujourd'hui, ils sont passés en conseil de discipline et qu'il n'y en a que 3 sur 6 qui sont révoqués. C'est-à-dire que les 3 autres vont pouvoir continuer à exercer. Alors que, imaginez, un seul instant, là, vous remplacez sur les propos qui ont été tenus. Ça, ils ont parlé des bougnoules, des nègres, des youpins. Voilà, imaginez que les fonctionnaires soient d'origine africaine ou
C'est ce que
maghrébine et
j'allais
qu'ils
vous
disent,
demander.
voilà, on va tuer les Français, Allah Akbar, etc. Ils auraient été révoqués dans la demi-journée, vous voyez. Et là, en fin de compte, dès qu'il s'agit d'insulter, de piétiner la dignité des personnes d'origine maghrébine ou africaine, là, il se passe absolument rien.
Ils sont
En fait, cette
discriminés de la même
histoire.
façon, les policiers d'origine africaine ou antillaise, selon vous?
Pas antillaise. Les antillaises représentent quand même un nombre important, une part importante de nos collègues. Ils sont français, ils sont majoritairement catholiques ou protestants. Donc le système, en fait, le problème se situe pas exactement. La fracture se situe pas à ce niveau-là. La fracture se situe en premier lieu au niveau bah, déjà de l'immigration extra-européenne, ensuite de l'islam et plus particulièrement du Maghreb. C'est-à-dire qu'on a une difficulté de part et d'autre de la Méditerranée à faire la paix avec notre histoire. J'ai lu ce matin les déclarations du nouveau président algérien qui revient encore 70 ans en arrière sur les excuses de la France, etc. Et puis en France, c'est pareil, on va surenchérir. Donc il y a une difficulté à ce niveau-là qu'il faut dénouer ou pas. Mais si vous voulez, on ne peut pas rester 2 siècles sur ça, quoi. Je veux dire, il y a un moment où il faut. Moi, ce que je fais actuellement, le fait de mettre ma carrière en danger, de me battre contre le racisme, de me battre aussi pour la vérité, tout simplement, et pour la justice, je le fais pas pour moi. Moi, c'est pas le sens de mes intérêts. Je le fais pour mes enfants, pour nos enfants à tous, parce que moi, j'ai hérité de quelque chose, d'une souffrance que mon père avait connue aussi, et donc je veux pas transmettre ça à mes enfants. Je veux que mes enfants puissent se sentir bien en France, dans leur citoyenneté, dans leur vie en France en général, dans leur vie professionnelle et affective et matérielle. Et donc, il y a un moment où il va falloir arrêter avec tout ça, quoi, si vous voulez. Donc, globalement, dans la police, oui, aujourd'hui, il y a eu des fautes. En fait, c'est pas ce que j'appellerais des erreurs. Quand Christophe Castaner a parlé de détecter les comportements radicalisés, etc., je pense qu'il y a eu des victimes collatérales de toute cette politique. J'en fais pas partie. J'étais pas visé par tout ça, mais j'ai vu certains fonctionnaires qui méritaient pas d'être sanctionnés, qui ont été sanctionnés parce que ils étaient musulmans, tout simplement, et parce qu'on avait besoin du côté de la préfecture de police de faire croire qu'on avait fait quelque chose d'efficace, alors qu'en fin de compte, on n'a rien fait, puisque Michael Harpon a réussi à tuer 4 des nôtres dans l'impunité la plus totale, puisqu'il n'y a pas eu de sanction à la suite de l'enquête parlementaire. Et donc, naturellement, écoutez, on est dans une situation qui est invivable et intenable aujourd'hui. Moi, je ne sais pas, vous parliez de Christophe Castaner tout à l'heure, la situation est intenable. Moi, je ne sais pas qui dirige aujourd'hui le ministère de l'Intérieur et ce qui s'y passe. Quoi. Je veux dire, la police est totalement en roue libre.
Eh bien, on va continuer à en parler avec vous, Noam Anouar. Vous êtes notre invité ce dimanche en direct dans Les Incorrectibles jusqu'à 14h sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo.
13h passées de bientôt 30 minutes, nous sommes toujours ensemble en direct sur Sud Radio avec notre invité Noam Anouar. Il est fonctionnaire de police et essayiste. Il a notamment écrit « La France doit savoir, un flic chargé d'infiltrer les islamistes raconte ». C'était paru aux éditions Plomb il y a quelques temps. Alors justement, vous avez également affirmé, Noam Anouar, que l'islam était utilisé comme prétexte pour vous décrédibiliser. Pourtant, les RG étaient bien contents, on peut l'imaginer, de vous avoir pour infiltrer les filières salafistes, comme vous parlez arabe et connaissez parfaitement leur façon de procéder. On avait, selon vous, besoin justement de vous et en même temps vous attiriez la méfiance, c'est ça?
En fait, bon, c'est un peu plus compliqué parce que alors il y a un contexte. Bon, j'ai pas pour habitude de me mettre à découvert comme ça, de parler de moi. Je suis un peu gêné d'ailleurs de le faire parce que je suis en tant que syndicaliste censé évoquer des questions plus larges. Mais en fait, j'ai une carrière ascendante. Si vous voulez, je suis entré comme gardien de la paix. Après 4 ans, j'ai passé mes examens de brigadier. Je les ai obtenus tout de suite. J'ai eu beaucoup de reconnaissance de la part de mes interlocuteurs au plan institutionnel. Je connais tous les maires, tous les députés du département. J'ai été invité à titre privé par l'ambassadeur des États-Unis pour déjeuner dans sa résidence. Donc du coup, je pense que ça a suscité effectivement une forme de jalousie de la part de mes chefs. Et j'ai à un moment, la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, c'est que j'ai opté pour expulser de façon imminente, après les attentats de Charlie, le frère de Tariq Ramadan, parce qu'il tenait un discours dangereux à l'époque. Et donc, ça m'a valu des déconvenues avec la hiérarchie, tout simplement. Mais après, si vous voulez, moi, je ne vais pas répéter leur discours. Le fait de dire maghrébin, musulman, etc., c'est l'excuse un peu facile pour discriminer. Bon, moi, ça me dérange pas, mais je veux dire, je suis ennuyé en fait de relayer justement leurs arguments en quelque sorte, parce que bon, je pense que c'est ce qui dérange dans le fond en substance, c'est l'idée que en fait chez Vigion on n'ait pas peur, tout simplement quoi. Vous voyez, quand il y a des dysfonctionnements au sein de l'institution policière, nous on y va sans détour, on n'a pas d'intérêt. Moi, j'ai pas le fil rouge avec le ministre de l'Intérieur qui me dit bon, de quoi t'as besoin d'un avancement, d'une mutation, allez hop. Moi, je m'arrange pas avec le ministre de l'Intérieur. Je veux dire, quand il y a un dysfonctionnement, je défends l'intérêt de la profession et de mes collègues. Et quand ça va pas du côté de la profession, quand il y a des dysfonctionnements, des violences policières ou quoi que ce soit, bah je me gêne pas pour les dénoncer non plus, si vous voulez. Donc cette liberté, et je pense que vous le savez très bien, vous l'avez bien compris, cette liberté de ton, en fait, elle est pas conventionnelle dans l'institution française en général. Donc, on est réprimé pour ça. Après, qu'on me dise oui, musulman, pas musulman, mal poli, etc., ça, c'est pas, si vous voulez, c'est très secondaire, en fait, en quelque sorte. Donc, voilà.
Alors Noam Anouar, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce qui se passe en banlieue et sur l'un des déclencheurs justement de la polémique sur le racisme dans la police et les violences policières. Les propos qui avaient été tenus en mai dernier par cette chanteuse Camilla Jordana, c'était dans l'émission de Laurent Ruquier sur France 2. Pour rappel, la chanteuse avait déclaré, je cite, « Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et j'en fais partie », ce à quoi elle avait ajouté « Je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau, c'est un fait ». Alors au-delà d'un certain coup médiatique ou d'une volonté de faire le buzz, qu'est-ce que vous aviez pensé de ces propos et de la réaction qui avait suivi celle de Christophe Castaner?
En fait, c'est très curieux parce qu'il y a tout un tas d'associations, de collectifs policiers qui sont minoritaires. Bon, je ne vais pas les citer, mais on a des syndicats, France Police, Alternative, Vigie, etc. Nous, on demande depuis l'investiture de M. Castaner à être reçu pour donner un autre point de vue que celui des syndicats majoritaires. On est délibérément ignoré, c'est-à-dire qu'ils ne se donnent même pas la peine de répondre à nos sollicitations. Ils nous méprisent. Et quand une chanteuse de variété, à peine post-adolescente, en fait, évoque un problème avec ses mots, hein, bon, moi, je lui accorde pas, si vous voulez, je la respecte en tant qu'humain, en tant que personne, en tant qu'artiste. Je veux dire, au plan politique, c'est pas ma référence, Camilla Jordana. Donc, elle exprimait un ressenti avec des propos que j'ai jugés extrêmement excessifs. Et par contre, Castaner, si vous voulez, bon, c'est de son niveau quelque part en réalité. Faut pas le blâmer. mais ils s'empressent d'aller lui répondre, quoi. Je veux dire, donc à un moment, nous, en tant que professionnels, on se dit, il y a un souci, quoi. Je veux dire, nous, on lui parle de suicide, on lui parle de Covid, de masque. Il nous avait interdit le port du masque au début de la crise Covid. Et on veut s'entretenir de ça avec lui pour lui dire, bon, bah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut améliorer nos conditions de travail? Il nous répond pas. Et il va faire la polémique avec Camélia Jordana. Donc, à un moment, je crois qu'il y a une grosse erreur de casting, en fait, et le remplacement du Premier ministre est largement insuffisant. Je pense qu'il va falloir reconstituer une équipe pour pouvoir redresser le cap.
Alors, justement, moi, parlons de ce remplacement qui serait imminent. Vous avez un remplaçant à suggérer. On parle de Guillaume Larrivé ou de Jean-Yves Le Drian pour peut-être le remplacer. Est-ce que vous avez une préférence sur cette nomination que pourrait faire donc Jean Castex?
Écoutez, traditionnellement, je sais qu'on s'est toujours trompé sur les pronostics. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque remaniement, il y a des noms qui circulent. Et puis finalement, bon, je sais que François Rebsamen était candidat de longue date pour le ministère de l'Intérieur. Il avait fait un travail intéressant sur Dijon. Maintenant, Le Drian, effectivement, pourquoi pas? Il a été brillant au ministère de la Défense. Je pense que effectivement, c'est un candidat probable. Parce qu'il a 80 ans, parce que je crois qu'il est malheureusement atteint d'un cancer, donc il n'est pas très menaçant pour le président sortant, et qu'a priori, il pourra peut-être mener la barque, si je puis dire. Bon, je pense qu'il lui sera adjoint de toute façon un secrétaire d'État qui fera le travail, parce que comme je vous l'ai dit, les ministres sont avant tout des communicants, ce ne sont pas des techniciens, ni même, ce n'est pas Charles Pasqua qui veut, si vous voulez, donc quelque part... je sais pas. Moi, je m'attends plutôt à une surprise. Si c'était Guillaume Larrivé, bon, bah, écoutez, pourquoi pas. Mais je veux dire, ce serait un choix. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'une personnalité emblématique et charismatique, en fait, au ministère de l'Intérieur pour redresser la barre. Parce que vous voyez bien ce qui se passe ces dernières semaines. Donc, on a besoin d'un homme à poigne. On a besoin de quelqu'un qui puisse être reconnu et connu ensuite. Et
ce que n'était pas Christophe Castaner, selon vous.
Ah non, si vous voulez, les syndicats qui l'ont accueilli et qui l'ont respecté à un moment l'ont fait par intérêt, mais à aucun moment, c'est en privé, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec quelques délégués syndicaux, on avait tous le même avis sur la prestation de M. Castaner. Et moi, j'aurais souhaité qu'on puisse l'aider justement à mener sa mission à bien, mais il s'est comporté de façon extrêmement arrogante, en fait, dès le départ. On va pas rappeler les différents épisodes, la pitié salpêtrière, le comment s'appelle le bar, le NATO, je crois, ou je sais plus. Mais je veux dire, il y a un moment où quand même, quand on incarne la fonction, on est quand même en veille 24 heures sur 24 quand on est ministre de l'Intérieur. C'est quand même un chantier, gérer la police et la gendarmerie, être garant de la bonne application du droit, c'est quand même un métier extrêmement sérieux. Et là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a ni queue ni tête. Si vous voulez, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, l'IGPN, etc. C'est des choses à redresser, en fait. Il y a besoin de reprendre ces institutions en main.
Alors, on va en parler, mais Noam, alors j'aimerais qu'on revienne un instant, donc je le disais, donc sur les propos, évidemment, Camilla Jordana, mais pas seulement, puisque s'en est suivi la mort de George Floyd aux États-Unis, qui a déclenché une vague de manifestations à travers le monde, et notamment en France, où, par ailleurs, on a reparlé, avec une vive intensité, de l'affaire Adama Traoré, qui était au premier plan ces dernières semaines. Alors, quel est votre sentiment, à vous, dans cette affaire?
Alors, en fait, la particularité, encore une fois, perverse de l'institution policière, c'est que finalement, elle essaye de contrôler les débats, et dans les débats, elle s'est désignée aussi des opposants. Parce que Camélia Jordana, à part une déclaration de 30 secondes chez Ruquier, il n'y avait pas matière à polémiquer 3 semaines dessus. Et de la même manière, Adama Traoré, ça a été, si vous voulez, le parallèle qui a été choisi par, je vais dire entre guillemets, pour paraphraser le système, pour justement faire le comparatif entre la situation française et la situation états-unienne. Sauf que déjà, d'une part, Adama Traoré a été interpellé par les gendarmes, c'était pas les policiers. Alors, pendant cette séquence médiatique, il avait beaucoup été question de police et d'IGPN, alors que la police n'était pas concernée par l'affaire Traoré. Le profil d'Adama Traoré, je reviendrai pas dessus, parce que vous voyez, il est mort aujourd'hui. Donc, l'action pénale s'éteint dès que les individus, si vous voulez, au moment du décès des individus. Donc, on va pas lui faire un procès post-mortem. Mais je veux dire, c'était pas quelqu'un de totalement innocent. Moi, je l'ai toujours dit depuis le début de cette affaire. Pour moi, que ce soit d'un point de vue de l'interpellation, d'un point de vue technique, du geste d'interpellation et de la nature de l'affaire, le parallèle qui aurait dû être fait, ça aurait été l'affaire Cédric Chouviat. Mais à un moment, je pense que la place Beauvau s'est pas empressée d'évoquer l'affaire Cédric Chouviat parce qu'on savait que les policiers étaient en tort. Preuve en est que finalement, à force de persistance...
Il y a eu ces enregistrements, oui.
Voilà, il y a eu les enregistrements et les policiers ont fini par être suspendu et peut-être mis en examen, si ma mémoire est bonne. Donc, si vous voulez, il y avait quelque chose à faire, à creuser de ce côté-là. Adama Traoré s'est plié. Je veux dire, 4 ans après, on n'aura pas de grandes révélations. Le profil d'Adama Traoré est pas très populaire, à part quelques personnes qui en font un symbole. Globalement, dans la masse, je pense, je peux pas m'exprimer au nom de tous les Français, mais il est plutôt perçu comme un délinquant, comme qu'il y a une personnalité relativement contestée et violente, quoi. C'est comme ça qu'il est perçu. La preuve, c'est qu'à Stein, il y a une fresque qui a été
justement qui a été installée et qui a été par ailleurs également vandalisée. On l'apprend il y a quelques heures. Hein, on le rappelle, une fresque en hommage à Adama Traoré et George Floyd, sur laquelle est peinte leurs deux visages avec la mention RIP et contre le racisme et les violences policières. Alors Christophe Castaner a dénoncé, je cite, une fresque de la honte, et le syndicat Alliance 93, une ultime provocation par un élu de la République qui stigmatise des policiers, c'est la citation, en demandant que cette fresque soit repeinte ou supprimée. Vous partagez leur avis ou pas, vous, Noam Manoir ?
Non, parce que moi, si vous voulez, je fais un métier sérieux, en fait, hein, même si aujourd'hui, effectivement, je n'ai pas la possibilité de l'exercer. Ça reste de la communication. Bon, le maire de Stein a voulu peut-être trouver une légitimité ou rallier un public, ce qui fait partie du jeu politique. C'est le métier de politicien.
Mais ça vous choque ?
Moi, je suis... Non, ça me choque pas parce que, si vous voulez, moi, je suis garant des libertés fondamentales. C'est le premier article du code de déontologie des policiers. Et donc, si le maire de Stein a décidé, puisqu'il a été élu démocratiquement, d'exprimer un soutien à George Floyd et à Adama Traoré, c'est son droit. Il est propriétaire, au titre de l'institution, des murs de la municipalité. Et donc, il est tout à fait en droit, d'exprimer une opinion. Maintenant, moi, j'ai pas à interférer là-dessus. Si moi, à titre syndical, demain, je veux faire, avec l'accord d'un maire, une fresque sur une autre thématique ou un soutien à la police, on le fera aussi. Et donc, je pense qu'on doit garantir la liberté d'expression et pas entrer dans ce jeu de politique politicienne. C'est pas notre métier. Nous, notre métier, c'est justement l'application du droit. Et donc, le syndicat Alliance aurait, si vous voulez, aurait peut-être mieux fait, justement, de se porter en garant de la liberté d'expression. Je pense qu'il aurait été grandi.
Mais pardon de vous demander ça, là, en une petite minute avant une nouvelle pause. Est-ce que vous pensez, Noam Manoir, que les citoyens français issus de l'immigration soient davantage la cible de violences policières ? Est-ce qu'un noir ou un arabe, il est forcément plus suspect, selon vous ?
Peut-être, aux yeux de l'administration. Peut-être. Après, moi, je ne veux pas me faire le défenseur de cette idée, parce que, si vous voulez, quand vous regardez statistiquement, les prisons sont majoritairement peuplées, il faut le dire, hein, ce n'est pas très populaire, ça ne me rend pas très populaire de le dire, mais de populations issues... en premier lieu du Maghreb, d'Europe de l'Est parfois, d'Afrique noire, et c'est comme ça, si vous voulez. Donc globalement, je ne sais pas quel est le rapport de cause à effet, mais il est évident que du point de vue d'un policier jeune qui démarre, parce que le 93, le vivier des policiers du 93, c'est des jeunes recrues. Donc, bah, eux ont parfois quelques préjugés et aussi ont parfois des convictions politiques. Donc globalement, il y a un état de fait auquel il faut remédier. Maintenant, rechercher les causes, on peut toujours, mais il y a une réalité, si vous voulez. La délinquance dans le 93, elle n'est pas constituée majoritairement de Français d'origine bretonne. Maintenant, il faut composer avec et il faut essayer d'être le plus juste et le plus efficace possible.
Noam Manoir est notre invité dans Les Incorrectibles jusqu'à 14h en direct. On se retrouve dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo.
Dernier quart d'heure des Incorrectibles jusqu'à 14h en direct avec notre invité. Il est fonctionnaire de police et essayiste. Il a publié notamment La France doit savoir aux éditions Plomb il y a quelques temps. C'est Noam Manoir. Alors justement, une question sur les réseaux sociaux de Brigitte Pelletier qui nous demande: le futur nouveau ministre de l'Intérieur devrait faire quoi pour remettre de l'ordre ? Qu'est-ce qui serait le plus urgent à résoudre selon vous ?
Alors, il y a beaucoup de choses, hein. Franchement, c'est un chantier pharaonique. Bon, déjà, il faut... on va dire canaliser les énergies, c'est-à-dire les effectifs de police nationale et de gendarmerie sont pas là pour faire de la politique. Donc il faut immédiatement arrêter ces interdictions systématiques de manifester qui sont imposées à la fois aux militants gilets jaunes, mais également aux manifestants partisans de l'antiracisme. C'est-à-dire que là, comme je vous parlais de liberté d'expression tout à l'heure, le préfet allemand, je pense, a la main un peu leste justement sur les interdictions de manifester, et donc ça crée finalement des troubles à l'ordre public. C'est-à-dire qu'on interdit au prétexte que les manifestations génèrent du trouble à l'ordre public, mais en réalité, on sait tous que c'est l'interdiction des rassemblements qui provoque justement les affrontements, parce que les gens ne peuvent pas s'exprimer, les gens se sentent lésés dans l'application du droit, et quand on va dire que la soupape est un petit peu sous pression, on leur interdit de sortir pour crier leur mécontentement, et on leur envoie des escadrons et des escadrons de CRS. Ces dernières semaines, moi j'étais sur le Champ de Mars, j'étais sur la place de la Concorde, on avait des armées, c'était même plus des dispositifs, c'était des armées de gendarmes mobiles et de CRS qui étaient là pour mater 1000, 1500, 2000 manifestants, parce que les gens se rassemblaient. J'étais hier à la manifestation des Gilets jaunes de La Roche-sur-Yon. Je suis désolé, mais ce ne sont pas des gens dangereux ou menaçants. Donc, il y a un moment, il faut respecter les libertés fondamentales. Donc, pour rebondir sur la question que vous aviez posée juste avant la pub, parce que ça me paraît fondamental, sur le racisme dans la police, moi, j'ai été choqué, et pourtant, ça m'arrive rarement, mais d'entendre un avocat, qui est l'avocat emblématique de la fonction de la profession policière, qui est Maître Liénard, donc il entendra mon message, exprimer sur BFM TV l'idée que le racisme était une opinion comme les autres et qu'il fallait justement garantir la liberté d'opinion. Mais là, on marche sur la tête. C'est-à-dire que ce monsieur a passé des années à former les officiers de police et les commissaires de police. Hein. Il était formateur à l'ENSP et à l'ENSOP pendant plusieurs années. Et il vient nous expliquer finalement, en pleine polémique sur les violences racistes et policières, que le racisme finalement est une opinion comme les autres et que finalement, tant qu'on l'exprime pas ou tant qu'on, dans le fond, en tant que juriste, ça s'entend, mais je veux dire, c'est plus que maladroit comme discours. Donc, moi, j'ai été profondément choqué que justement il n'y ait pas eu de recadrage à ce discours et qu'on ait pu à ce niveau de responsabilité quand on est un auxiliaire de justice et en plus un avocat de la fonction policière de pouvoir exprimer que le racisme est une opinion comme les autres. Moi, je suis profondément choqué et donc j'attends justement une réaction de recadrage du ministère de l'Intérieur parce que c'est pas possible, on peut pas laisser passer ça. Le racisme est un délit en France dès lors qu'il est exprimé. Mais on peut pas encourager, si vous voulez, les racistes à finalement à être discrets pour rester dans le cadre de la loi. C'est pas suffisant. On doit avoir un discours pédagogique et presque menaçant, je dirais.
Alors Noam Manouar, j'aimerais également qu'on discute de cette plus récente actualité, celle du 28 juin dernier, hein, des municipales, puisque Abdelaziz Hamida, un quadragénaire franco-marocain sans étiquette politique, a été élu au second tour des municipales, maire de Goussainville, une ville du Val d'Oise dans laquelle, je le rappelle, vous avez grandi. Cette nomination fait polémique car il suspectait d'avoir été fiché S, notamment par le journal L'Express, contre qui il a d'ailleurs porté plainte, et a été accusé par ses adversaires à mots plus ou moins couverts de communautarisme. Alors vous avez affirmé lors de votre passage ici sur Sud Radio chez mon ami André Berkoff que Hamida était la première personne à Goussainville dont l'épouse était entièrement voilée. C'est un défenseur de l'islam rigoriste selon vous, bien qu'il se présente comme un vrai républicain ?
Alors, c'est très bien qu'on puisse se reparler aujourd'hui parce que je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais hier il y a eu un article du Parisien pas à demi-mot, qui reconnaît que l'Express avait raison en fait, que M. Hamida avait été fiché S pendant plusieurs années et que le fichage avait été suspendu. Donc ça, c'est un élément déjà parce que lui, il l'avait contesté, on nous avait dit que c'était mensonger, que c'était diffamatoire. Et finalement, le Parisien, dont l'attitude reste énigmatique parce que là, sur ce dossier-là, on a eu une série d'articles qui étaient des articles plus que partisans et plus que, on va dire, en faveur, en fait, favorable à la candidature de M. Hamida. Donc, on nous explique que finalement, il était fiché S, mais que ça ne le concernait pas directement. C'était des gens de son entourage, mais que maintenant, il serait devenu gentil, qu'il aurait changé. Donc, le discours est en train de changer. Donc, on s'aperçoit que finalement, les accusations n'étaient pas si infondées que ça et que quelque part, il commence à mettre un petit peu d'eau dans son vin. Puis bon, la journaliste s'est pas gardée d'aller interviewer un certain Eric et puis d'autres personnes qui nous disent « Oh, mais finalement, il a été élu démocratiquement, il faut respecter la décision du peuple ». Vous voyez, donc, il faut savoir qu'on est dans la sphère politique. C'est-à-dire que M. Hamida était en PLS, hein, si je puis dire, ces derniers jours, et que finalement, là, il a obtenu dans la presse quelques soutiens assez timides, parce que bon, le soutenir, c'est quand même prendre quelques risques. Mais si vous voulez, ça reste des soutiens d'ordre politique. Donc, les soutiens politiques sont pas gratuits. Aujourd'hui, il est maire, il a le carnet de chèques, il a la signature. Donc, quelque part, je pense que les personnes qui vont le soutenir dans cette aventure le feront pas à titre gracieux, si vous voulez. Il y aura sans doute des retours d'ascenseur par la suite. Donc, moi, je crois que les faits sont établis.
Mais qu'est-ce que vous pouvez vous dire, les faits sont établis. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces relations avec les frères musulmans et les milieux salafistes? Est-ce que vous avez des preuves, Noam Manouar, ce que vous dites?
Ah, mais vous imaginez bien que, d'une part, déjà, j'étais pas fonctionnaire au RT 95, que si j'avais des preuves, y a malheureusement le sceau du secret défense qui m'interdirait de vous fournir des preuves matérielles. Mais aujourd'hui, on sait qu'il a été fiché S. Donc, déjà, il y a une raison. Individu, en relation avec la mouvance islamiste radicale. Donc, c'est une fiche S que j'ai beaucoup pratiquée à l'époque. Pour rebondir sur l'article qui est paru hier, il lui dit, les relations que j'ai eues avec le Tablir, finalement, c'est que j'y suis allé pour apprendre l'arabe. Donc, moi, je lui pose la question de savoir s'il n'avait pas plutôt peut-être un mandat électif dans une association, peut-être en Seine-Saint-Denis ou ailleurs. Je lui pose la question. Parce que l'article me paraît tout à fait incomplet et inexact. Donc moi, je l'invite à répondre par voie de presse ou directement s'il le souhaite. Mais moi, je crois que ce que dit l'article du Parisien hier est très édulcoré. C'est-à-dire qu'il n'a pas seulement été un adhérent pour apprendre l'arabe dans l'association Tablir, mais je pense qu'il y a exercé une plus lourde responsabilité pendant extrêmement longtemps. Donc voilà, il nous répondra s'il le souhaite. Et sur un voyage en zone indo-pakistanaise, il n'a toujours pas répondu. Après, est-ce que ça… Alors, je reprends votre propos parce qu'il a été reformulé comme ça sur Internet. Je n'ai pas dit sa femme a été la première femme intégralement voilée de Goussainville. Je disais qu'avant sa femme, je n'avais pas connu de femme intégralement voilée à Goussainville. Ça a été la première avec une de ses amies, bon, dont je tairai le nom parce que c'est pas utile de le préciser, mais elles étaient un groupe de deux ou trois. Moi, c'est les premières femmes que j'ai vues. À l'époque, ça m'a profondément choqué parce qu'elles se baladaient avec un niqab noir qui la couvrait complètement, c'est-à-dire que le visage n'était pas visible, ni les yeux, ni rien, ni les mains. Elle était porteuse de gants, donc vous connaissez la tenue du voile intégral. Donc, elle était porteuse de ce voile intégral. Voilà. Donc, il n'a pas répondu. D'ailleurs, il n'est pas obligé parce que ça concerne sa vie privée. Mais quand vous me posez la question de savoir s'il était communautariste ou pas, ça me paraît être un élément important pour justement jauger de l'idéologie dont il est partisan ou dont il a pu être partisan à un moment.
Alors, on parle de politique, justement. Pour certains, comme Jean Messia du Rassemblement National, Goussainville est une ex, je le cite, ville française comme Garches-lès-Gonesse. Ce sont des villes qui représenteraient la non-France. Voilà son propos. Quelle est votre réaction, justement, face à ce qu'il dit ?
Bah, moi, j'aime pas stigmatiser l'ensemble des habitants parce que, si vous voulez, il y a quand même plus de… Je crois que les autres candidats ont rassemblé quelques 50% des suffrages. Donc, il faut penser à ces gens-là, si vous voulez. Monsieur Hamida a rassemblé, je crois, 38% des suffrages sur 15% d'électeurs inscrits, parce que je crois qu'il y a eu 85% d'abstentionnistes, si ma mémoire est bonne. Donc, je ne pense pas qu'on puisse mériter que les habitants, en tout cas de la ville, et tous les fonctionnaires qui y exercent, il y a un lycée, il y a un collège. Donc, je pense que tous ces gens-là sont neutres et ne méritent pas d'être stigmatisés. Mais il faut être extrêmement attentif. Moi, juste avant l'émission, j'ai reçu un appel d'un élu d'opposition qui me dit bah, « Hier, ils ont tenu le conseil municipal d'intronisation en fait, du nouveau maire. Il a fait voter de façon expresse une première résolution, c'est-à-dire un arrêté municipal qui viserait en fait, à lui offrir la protection fonctionnelle pour prendre en charge ses frais de procédure. C'est-à-dire sur tous les procès qui ont eu lieu, notamment les attaques en diffamation, etc., il veut faire prendre en charge les frais d'avocat par la collectivité. » Donc moi, j'invite toutes les forces d'opposition et toutes les forces laïques à se pencher justement sur l'arrêté municipal pour le contester immédiatement en référé, s'il existe en tout cas et si les faits sont avérés, pour le contester devant les juridictions administratives, parce que déjà, il y a le critère d'antériorité, mais si vous voulez, les Goussainvillois qui se maintiennent difficilement dans cette zone et qui payent des impôts fonciers, des impôts locaux, ne sont pas là pour prendre en charge les frais de procédure de Monsieur Hamida et les frais dont il de diffamation, si vous voulez, pendant la campagne électorale. C'est pas l'objet, quoi. Là, on marche sur la tête. C'est une ville relativement pauvre et il faudrait que les administrés prennent en charge les frais de procédure de Monsieur Hamida parce qu'il se sent lésé par les propos de l'Express ou de je ne sais quel journal. Mais là, c'est hors de propos. Donc, j'invite justement les forces laïques et les forces résistantes à analyser justement l'arrêté municipal pour justement le contester et le faire annuler devant le tribunal administratif. Parce que démocratiquement, c'est complètement aberrant, en fait. Voilà, donc c'est une information que j'ai reçue à titre verbal, il faudrait la vérifier. Mais voilà, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, alors l'argument qui nous a été rétorqué c'est à la suite de l'interview que j'ai fait chez M. Berkov, c'est de nous dire, oui, mais une fiche S n'équivaut pas à une condamnation. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une suspicion qui émane des services de renseignement. Alors, M. Hamida, peut-il nous garantir qu'il n'ait jamais été condamné par la loi ? Moi, je pose la question. Ce monsieur a déjà été condamné? Est-ce qu'il a un extrait de casier judiciaire à nous présenter? Quoiqu'un extrait de casier judiciaire, ça s'efface aussi. Donc, est-ce qu'il a déjà été condamné ou pas? Est-ce qu'il a déjà été mis en cause? Parce qu'à Goussainville, on nous dit qu'il aurait fait l'objet d'une mise en cause et d'une condamnation pénale. Ce sont des rumeurs à confirmer ou à infirmer. Mais également qu'il aurait fait l'objet d'une saisie fiscale. C'est-à-dire qu'il possédait des biens immobiliers, mais que pour des raisons fiscales, on lui aurait saisi peut-être un appartement, quelque chose de cet ordre-là. Donc moi, ce sont des rumeurs, donc je ne les confirme pas, mais je veux savoir ce qu'il en est. Parce que est-ce que déjà, au premier jour de son mandat, il a un passé judiciaire, en plus de la fichesse, et peut-être un passé fiscal ?
Noah Manoir, on arrive bientôt au terme de cette émission. Dernière question, est-ce que vous avez toujours foi dans votre métier ?
Non, absolument pas. Alors moi, voilà, j'estime, si vous voulez, j'ai pris effectivement 2 ans de suspension, j'aurais pris 1 jour de suspension, ça aurait été une injustice, moi j'estime, vous savez, quand je vous parlais de Twitter, de Facebook tout à l'heure, j'ai des tas de policiers… des policiers racistes, hein, on peut pas dire autrement, qui disent « bien fait, t'es suspendu ». Quand j'interviens dans les médias, ils disent « oui, mais c'est un policier suspendu ». Oui, on m'a suspendu pour violation du devoir de réserve. Et j'ai plein de policiers racistes qui participent au forum Facebook, au forum Twitter, qui, eux, violent délibérément le devoir de réserve et sont pas sanctionnés. Donc moi, effectivement, j'y crois pas. Donc moi, j'en profite, et effectivement, ce sera le mot de la fin peut-être, Bah, pour dire que moi, je suis en recherche d'une police municipale pour pouvoir y exercer un métier un peu plus en rapport avec ce que j'ai choisi au départ, ou éventuellement un poste de collaborateur cabinet chez un maire fraîchement élu qui souhaiterait justement s'enrichir de quelqu'un qui aurait des compétences en matière de sécurité. Mais la police nationale aujourd'hui est une institution malade. Et rien ne me démontre aujourd'hui qu'on va aller vers un cap, j'irai, d'apaisement.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Noah Manoir, d'avoir répondu à notre invitation dans Les Incorrectibles. Merci à Maxime Sénat d'avoir été à la réalisation, à Nicolas Philippi au digital, ainsi qu'à Céline Delabaume qui m'a aidé à préparer cette émission. Toutes nos émissions sont disponibles, je le rappelle, en replay sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Je profite de ces dernières émissions de la saison pour vous remercier. Vous, les auditeurs des Incorrectibles, tous les invités qui sont succédés dans cette émission et qui ont contribué à son succès, de même que la direction de Sud Radio pour sa confiance, sans oublier toutes les équipes qui travaillent dans l'ombre. On se retrouve pour une troisième saison des Incorrectibles dès le 6 septembre prochain sur Sud Radio. D'ici là, je vous souhaite à tous un bel été et avant tout, prenez soin de vous.